Ana, decime. Good morning, everybody. Please take your seats.
Thomas Schneider, bonjour à tous. Veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Nous allons donc aujourd'hui avoir un ordre du jour vraiment très intéressant pour la journée. Le Portugal veut prendre la parole. Le Portugal prend la parole. Je vais parler portugais. Bonjour à tous. Thomas, j'ai vu que l'on avait envoyé un courriel, un message électronique à tous les membres du GAC avec des thèmes vraiment pertinents pour notre débat sur la transition des fonctions de l'INA et sur la responsabilité sur la reddition des comptes, parce que nous avons besoin au sein du GAC d'un débat et ce débat doit avoir lieu aussi dans les plus brefs délais. Il faudrait réviser notre ordre du jour d'aujourd'hui parce qu'il faut établir ce débat au sein du GAC. Thomas Schneider prend la parole. Merci. Voilà, très bien. Il y a donc une demande pour revoir notre ordre du jour. Si je comprends bien, vous voulez avoir davantage de temps pour parler du CCWG pour pouvoir parvenir à un résultat. L'Iran prend la parole maintenant.
Que demain, avec réunion de CCWG, nous commencerons le deuxième round concernant la situation. Et c'est plus important que nous discutions.
Muy importante que
les grandes lignes sur la.
Comme minimum, les grandes lignes.
Débattre la situation. Il y a une grande liste devant le CCWG. Je n'étais pas d'accord avec ça dans l'e-mail avec les deux présidents ou co-présidents de CCWG. J'ai mentionné que nous devrons concentrer sur les principales questions, pas aller plus loin. Mais une des questions principales, c'est ce que nous devrons, au GAC, être préparés pour répondre à cette question. Alors, je suis tout à fait d'accord. Nous devrons au minimum dépenser 30 ou 45 minutes concernant les grandes lignes. Merci.
Merci, l'Iran. Alors, on a des... I'm told to switch to English. OK. Mais bon, le français, c'est une langue officielle de ce... de cette,
Nous avons ici deux demandes pour modifier l'ordre du jour pour accorder plus longtemps à la proposition du CWG. Et au cas où vous auriez besoin de plus de temps pour cela, nous serons très heureux de modifier notre ordre du jour. Je vous entends. Vous devez me dire comment vous voyez les choses. La question serait la suivante. Où est-ce que nous allons trouver un peu plus de temps pour pouvoir réaliser ce débat? Est-ce que vous voulez avoir un certain temps pendant l'après-midi pour cette discussion? Je vois qu'il y a des personnes qui acquiescent dans la salle. Croyez-vous que nous pourrions prendre du temps pendant l'après-midi? Le Maroc.
Juste pour clarifier, quand vous dites qu'on va discuter plus dans l'après-midi, ça veut dire qu'on va zapper tous les points à l'ordre du jour et parler seulement de la transition et de la comptabilité? Un point de clarification, s'il vous plaît.
Merci pour cette question. In fact, we can look at the afternoon's agenda and discuss.
Nous allons modifier l'ordre du jour de l'après-midi parce qu'il y a des choses... Nous voulons maintenir ce qui apparaît sur l'ordre du jour à l'heure actuelle et nous pourrions peut-être, après cette réunion ou par courriel, nous pourrions peut-être avoir une discussion approfondie si nous considérons notre ordre du jour de l'après-midi. Il y a des modules concernant le travail des groupes de travail, excusez-moi de la redondance. Il y a aussi la réunion gouvernementale de haut niveau et le travail du groupe de travail sur le comité des nominations ainsi que tout ce qui concerne les candidatures communautaires. Ce que nous pouvons faire, c'est reporter les discussions des groupes de travail pour une autre réunion ou bien leur proposer de continuer à travailler dans la période d'intercession par courriel et conserver des thèmes tels que les candidatures communautaires et les discussions sur la réunion gouvernementale de haut niveau. Donc, conserver ces thèmes dans notre ordre du jour parce que nous devons nous préparer pour la réunion avec le conseil d'administration. Nous ne pouvons pas éliminer cette partie du programme. Il faut que nous soyons bien préparés pour cela. Je réfléchis à voix haute. Voilà la proposition. Croyez-vous que nous pourrions avoir ces trois séances entre 2h et 3h de l'après-midi et puis la séance qui se fera après la pause café, nous aurions à peu près 1h30 de plus pour pouvoir parler du CCWG, quelles sont vos opinions à cet égard? La France prend la parole.
Thank you, Argentina.
Yes, I'm happy to keep on working electronically with the group. I think this.
Merci, Olga Cavalli prend la parole bien. Nous serons heureux de travailler par courriel avec le groupe. Thomas Schneider prend la parole pour la céder à l'Iran. L'Iran prend la parole. Bien, nous devons voir quelle est la priorité. La priorité, c'est la transition. Il faut que nous y attachions toute notre attention à ce thème. Je suis d'accord sur cette proposition. C'est une question très importante, celle de la transition, si l'on tient compte de la situation spéciale et des caractéristiques du GAC. J'ai reçu hier un courriel où l'on nous demandait comment nous pouvions rendre responsables les SO et les AC. Le GAC ne peut être responsable que devant ses gouvernements. Comment faisons-nous pour que le GAC soit responsable devant le reste des AC et des SO? Le GAC doit discuter de cela. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, le Brésil prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Le Portugal a fait une suggestion vraiment très intéressante, très sage. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Je dis qu'il faut que nous ayons davantage de temps pendant l'après-midi pour pouvoir discuter de ce thème. Merci beaucoup. Thomas Schneider prend la parole. Merci. Je crois que nous sommes tous d'accord. Nous allons donc utiliser ces trois blocs de 30 minutes chacun. Je vous suggère donc d'aborder maintenant le point de l'ordre du jour 20 concernant les candidatures communautaires que nous l'abordions l'après-midi où nous avons maintenant la discussion au point 21 sur le comité de nomination et le point numéro 18. On a la pause café à 2h de l'après-midi et on peut s'occuper de CCWG à cette heure-ci. Comme vous le voyez, avant le déjeuner, nous avons la révision du communiqué. Il y a ce bloc et nous pouvons voir ce que nous avons jusqu'à présent en termes de communiqué. Nous pourrions profiter de ce temps disponible pour la discussion. Cela nous permettrait d'avoir 2h pour ce débat. Si vous êtes d'accord, à midi, nous verrons où nous en sommes par rapport au communiqué. Nous nous servirions du temps disponible avant la pause du café de l'après-midi pour parler du CCWG. Alors, je vois que la plupart d'entre vous acquiescent. Nous allons travailler de la sorte et nous allons voir quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer par rapport à ce temps supplémentaire. Je suis d'accord sur le fait que nous pouvons nous en servir. Merci beaucoup. Revenons donc au point concret de l'ordre du jour. Où il y a la présentation et le débat sur le groupe de travail sur les noms géographique. Je cède la parole donc à l'Argentine qui en est responsable. L'Argentine prend la parole. Bonjour à tous. Nous pouvons travailler jusqu'à 10h moins le quart là-dessus. Le premier point que nous devons aborder, c'est de savoir si nous sommes d'accord sur les termes de référence du groupe de travail. Je voudrais vous rappeler que le travail de ce groupe de travail a commencé dans cette salle exactement en novembre 2013. Après la référence faite dans le communiqué du GAC de Durban, où nous disions qu'il fallait présenter des idées pour travailler avec l'ICANN afin d'adapter les documents sur la nouvelle série de nouveaux GTLD. Le groupe de travail a travaillé pendant un certain temps. Nous avons réalisé un document de base ayant différentes versions dont la dernière a été présentée pour la consultation publique, non pas comme un document ayant fait l'objet du consensus du GAC, mais comme un document de référence préparé par le groupe de travail. Nous avons reçu beaucoup de commentaires. Nous avons fait une révision des différentes positions dans la réunion de Singapour, lors de la réunion de Singapour. Et maintenant, je vais vous montrer de façon approfondie la révision précise de ce document pendant cette séance. Les formalités du groupe de travail consistent à tenir compte des termes de référence. C'est une excellente idée. Mais je veux tout simplement préciser que le groupe de travail a aussi une histoire préalable sur son travail. Ils ont distribué à la liste de diffusion du GAC les termes de référence. Nous avons reçu plusieurs commentaires que nous avons pu les inclure tous, d'après ce que je crois. Je voudrais savoir si vous avez des commentaires ou si vous êtes d'accord sur ces termes de référence et si nous les acceptons.
Merci. No comments, no hands.
Je vois qu'il n'y a pas de commentaires. Personne ne lève la main. Nous sommes donc d'accord. Nous allons aller de l'avant. Voilà, merci. Une autre chose que l'on a demandé pendant la réunion de Singapour et dans des réunions précédentes, on nous avait demandé de travailler de façon plus coordonnée et plus souvent avec le groupe de travail intercommunautaire sur l'utilisation des noms de pays et de territoires. Ce groupe est co-présidé par la CCNSO et la GNSO. Un problème auquel j'ai dû faire face pour participer aux téléconférences, c'est que ces téléconférences étaient au beau milieu de la nuit. Moi, je suis dans le fuseau horaire moins 3. Donc, il était très difficile d'y participer. Mais le groupe de travail a été très gentil de modifier l'horaire des téléconférences. Et maintenant, je peux y participer. Pour certaines téléconférences, il y avait un chevauchement avec d'autres téléconférences sur le processus de transition de l'IANA. Mais j'ai participé dans la mesure du possible. Le groupe de travail intercommunautaire travaille pour élaborer un document, et la valeur que nous pourrions ajouter au travail qu'ils font concerne la définition du travail qu'ils font justement. Ils réfléchissent à ce que l'on appelle un nom géographique. Cela pourrait être avantageux pour notre groupe de travail. Je vais essayer de maintenir ce rapport quant au travail. Ils s'intéressent très fortement à ce travail que nous faisons dans ce groupe interne de travail du GAC. Je vais essayer de les mettre à jour et je le ferai aussi dans la prochaine téléconférence. Malheureusement, hier, il y avait un conflit qui se posait avec une réunion régionale. Lorsque c'est la région qui effectue les réunions, il y a beaucoup d'événements auxquels il faut assister. Hier, je n'ai pas pu y assister, mais je crois que Nigel ou quelqu'un de la CTU ou quelqu'un du GAC a pu participer parce que j'ai vu des commentaires dans la liste de diffusion. Je voudrais savoir si vous avez des commentaires dans le public pour ce qui concerne les idées ou une participation plus forte que nous pourrions avoir dans ce groupe de travail. Je voudrais encourager d'autres membres du GAC à travailler avec moi parce que le GARC participe aussi au groupe de travail intercommunautaire. Si vous voulez, je peux vous mettre au courant de ce qui se fait. Nous pouvons avoir une communication par Skype. Et si cela vous intéresse de participer à ce groupe de travail intercommunautaire, ce serait très avantageux pour le groupe de travail du GARC et pour notre groupe. Est-ce que vous avez des commentaires sur le travail qui se fait concernant les noms de pays et de territoires? Je vais établir une liste. L'Iran, la Norvège, l'Indonésie, le Royaume-Uni et Kavus. L'Iran, donc, prend la parole. Merci, Olga. Nous avons été un peu frustrés de voir que nous avons commencé en 2013, que nous sommes en 2015 et que nous nous sommes maintenant mis d'accord sur les termes de référence. Il semble que la deuxième série des GTLD va commencer sous peu, pas le mois prochain, mais sous peu. Donc il faut que nous soyons préparés pour cette série, même si nous respectons les périodes qui sont établies. Le problème... Les problèmes concernant les fuseaux horaires, bon, affectent aussi à d'autres. Et moi, je me suis levée à 2h du matin, à 4h du matin. Voilà ce qui se passe dans la vie réelle. Je vous demande de nous centrer sur ce qui se passe dans la liste de diffusion de façon plus efficace. Et je pense qu'il faut encourager les gens à réduire le nombre de téléconférences entre cette réunion et la réunion de Dublin. Parce qu'avec le CCWG, nous avons beaucoup de temps qui doit être consacré à cela. Il faut encourager les gens à participer. Nous pourrions peut-être avoir un engagement relativement informel des membres pour qu'ils fassent partie de ce groupe et pour qu'ils puissent participer à ces réunions. L'Argentine prend la parole pour la céder à la Norvège. Merci, Olga. Un petit commentaire sur l'objectif du groupe de travail. Nous sommes d'accord sur les termes de référence et sur l'objectif de protection, d'amélioration de la protection non géographique pour la deuxième série. Mais nous devons aussi tenir présent à l'esprit que nous ne devons pas essayer de tout protéger pour finir ensuite dans la prochaine série par avoir moins de protection que nous n'en avions pendant la première série. Je crois que nous devrions, nous, centrer sur la discussion, sur la manière d'obtenir ces protections. Et ce qui serait le plus important pour nous au point de vue des politiques, les noms de pays et de territoires semblent être spéciaux en ce sens-là. Ce groupe de travail intercommunautaire semble discuter les codes à deux caractères qui n'ont pas été attribués pour les nouveaux GTLD. Ils veulent aussi avoir des noms de pays et de territoires comme de nouveaux GTLD. Nous estimons que cela ne devrait pas se passer de cette manière. Je comprends aussi qu'à partir des expériences de la première série, avec des noms controversés pour les régions, bon, il faut trouver une façon de faire ce qui peut être le plus profitable en termes de noms de pays, surtout si l'on tient compte des aspects politiques. L'Argentine prend la parole pour la céder à l'Indonésie. Merci beaucoup, Olga. L'Indonésie prend la parole. C'est un commentaire bref que je ferai. Sur la discussion et sur la manière dont les protections vont être mises en place. S'il y a des questions liées à l'intérêt public, vous avez parlé des soucis de la communauté par rapport à l'intérêt public. La communauté peut changer de temps à autre. Par exemple, si quelqu'un de l'Argentine demande un nom de domaine .bali, les représentants du Bali seraient contents à un moment donné parce que cela représenterait un afflux de touristes plus important. Mais ils pourraient se plaindre aussi parce qu'ils diraient, bon, ce monsieur argentin gagne $1 million chaque mois et nous devrions enfin donner cela au peuple de Bali. Alors comment peut-on travailler là-dessus? L'Argentine prend la parole pour la céder au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Mon commentaire s'aligne sur ce que la Norvège a dit. Le travail sur la définition est vraiment crucial pour nous tous et pour le groupe de travail intercommunautaire. Nous devrions donc focaliser notre attention sur tout cela. Je me demande si vous pourriez nous dire quel est l'état de la situation avec le groupe de travail intercommunautaire quant aux définitions pour le plus grand bénéfice à tirer dans cette réunion. Pourriez-vous nous expliquer un tout petit peu plus comment cela se passe et quelle sera la modalité de travail du groupe du GAC dans l'interaction dans ces débats? Comme la Norvège l'a dit, c'est des thèmes essentiels pour les gouvernements. Nous avons besoin d'un peu plus de précision. Excusez-moi si je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Vous l'avez peut-être dit, vous l'avez peut-être signalé. L'Argentine prend la parole. Les États-Unis vont d'abord prendre la parole et ensuite je ferai un commentaire par rapport à ce que le Royaume-Uni a dit. Les États-Unis prennent la parole. Merci, Olga. Je suis d'accord avec les commentaires du Royaume-Uni et de la Norvège. Ce serait très bien pour nous de savoir où nous en sommes dans nos échanges avec le groupe intercommunautaire. Je dois reconnaître que je ne suis pas tellement à jour sur ce qui a été fait dans ce groupe de travail. Lorsque nous regardons vers l'horizon, la version préliminaire n'est pas une proposition du groupe ni une proposition du GAP. Nous devons tenir compte du fait que nous avons des commentaires. L'une des étapes suivantes, ce serait de répondre aux commentaires. Je crois que nous avons reçu des commentaires très profitables. Je voudrais savoir à quel moment nous allons en parler pour donner une réponse. L'Argentine prend la parole avant de céder la parole aux Pays-Bas et à la Norvège. Je peux faire des commentaires sur les définitions. Ce n'est pas l'objectif du document que j'ai préparé, mais je peux faire des commentaires là-dessus et l'on peut peut-être m'aider à voir où nous en sommes. Il se peut que... Enfin, je vais faire une révision précise des révisions juridiques. C'est ce sur quoi nous étions d'accord à Singapour et aussi avec ce qui a été dit pour la communauté. Maintenant, les Pays-Bas prennent la parole. Merci, Olga. Pour revenir sur ce que le Royaume-Uni, la Norvège et les États-Unis ont dit, je voudrais signaler que la protection, et cela fait partie des termes de référence, protection, le mot protection signifie la protection par rapport à un usage abusif. C'est-à-dire, la protection n'implique pas un blocage ou la réserve d'un nom de domaine. Nous avons différentes catégories de noms géographiques et nous devrions nous centrer sur le type de protection nécessaire. Certains ont peut-être besoin d'un verrouillage ou la réserve du nom, mais pour d'autres, je crois que nous pourrions travailler sur la protection qui peut être utilisée, mais dont il ne faut pas abuser. C'est-à-dire, nous pouvons présenter cette protection pour le nom de domaine, mais le nom de domaine doit être cédé avec un certain nombre de protections. L'Argentine prend la parole pour la céder à la Norvège. La Norvège prend la parole. Nous essayons aussi de poursuivre le travail fait par le groupe de travail intercommunautaire à cet égard et qui concerne les CCTLD. Moi, je voudrais demander à notre CCTLD de nous faire une mise à jour rapide de ce qui se passe dans ce groupe de travail intercommunautaire pour avoir de l'information sur ce dont on a débattu il y a peu de temps. Cela serait très utile pour être au courant de ce qui se passe. L'Argentine prend la parole. Je regrette, Annebeth, que toutes les lumières soient pointer sur toi. Cela a été un vrai défi de travailler là-dessus parce que je fais partie de différentes listes. Mais est-ce que tu pourrais, Anne-Beth, nous faire un commentaire à propos de ce qui... Après l'Allemagne, pourrais-tu parler de la définition et de l'analyse que vous faites en ce moment? Et il me semble que c'est très intéressant parce que cela aborde ce que l'Allemagne, ce que le Royaume-Uni demandait. L'Allemagne maintenant prend la parole. Je vais donner mon accord à ce que le Royaume-Uni et d'autres ont dit. Nous avons besoin d'avoir une protection pour l'avenir. C'est important, mais nous devons nous centrer aussi sur un point qui est important pour les gouvernements. Le deuxième point, je ne sais pas si nous pouvons savoir s'il y a eu une analyse de ce qui a été fait jusqu'ici. Nous avons entendu parler de certaines expériences. Il faudrait savoir comment les nouveaux GTLD qui sont déjà enfin introduits, et il n'y a pas les noms géographiques parce qu'ils ont été exclus par les différents gouvernements. C'était l'objectif général. Je suppose et j'espère bien qu'il n'y en aura pas, qu'ils ne seront pas aussi nombreux, pour être enfin sincère. Et le troisième point, je veux donner mon soutien à ce que disent les Pays-Bas. L'objectif n'est pas de verrouiller, pardon, les noms géographiques. L'objectif doit être de donner des critères pour que les candidats qui incluent des noms géographiques puissent comprendre que cela ne doit pas soulever un conflit, qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation au point de vue des consommateurs. L'Argentine prend la parole pour la céder à l'Allemagne, puis au Pérou. Pardon, je ne vous vois pas bien, donc si je ne vous mentionne pas, levez vos mains plus haut. Donc, le Pérou va prendre la parole. Je vais parler espagnol. Je veux vous faire comprendre qu'il y a toute une série de progrès qui se font dans le domaine multilatéral qui pourraient être très utiles pour le groupe de travail intercommunautaire, aussi bien que pour le GAC. Je parle surtout de l'OMPI, de l'OMPI, où l'on fait des progrès assez importants en ce qui concerne les indicateurs géographiques. Il y a 2 mois, il y a eu un débat très intéressant sur l'homonymie, une question qui n'a pas été soulevée au sein du GAC non plus. L'OMPI a déjà débattu de l'homonymie et elle a déjà pris une décision quant à la manière de gérer des questions liées à l'homonymie. Voilà. Ce que je voulais, c'était tout juste signaler que l'on a fait beaucoup de progrès en dehors des frontières de l'ICANN et que l'on peut tirer avantage de ce qui a été fait. Merci. L'Argentine prend la parole. Merci, Milagros. Est-ce que tu pourrais nous envoyer cette information pour que nous l'utilisions en tant que documentation de référence? Est-ce que quelqu'un d'autre a demandé la parole? Anne-Beth, est-ce que tu pourrais donc nous mettre à jour de ce qui a été dit dans les définitions du groupe? Je m'appelle Anne-Beth Lang. Je fais partie du registre de points NL et je suis en tant que coprésidente du groupe de travail intercommunautaire pour les codes géographiques. Nous sommes 2 coprésidents des CC. Et vous avez aussi dans le groupe de travail des coprésidents du côté de la GNSO. Il y a aussi des membres de la LAC et des membres du GAC. Je suis très heureuse de voir que tu es là. Nous travaillons dans ce groupe de travail intercommunautaire avec les noms de pays et de territoires. Il ne s'agit pas de noms géographiques en soi. Les définitions sur lesquelles nous travaillons dans ce document ne sont applicables qu'au nom de pays et au nom de territoire et aux différentes formes peuvent être des codes à 2 caractères, à 3 caractères, différentes langues, le nom complet, le nom abrégé, le nom court. Nous travaillons au niveau des TLD, non au niveau du deuxième niveau. Et il faut préciser cela. Quant au nom de pays et de nom de territoire, nous les prenons de la même manière, sur le même, sur un pied d'égalité. Il est évident qu'il y a une forte influence au point de vue géographique de ce qui peut apparaître. C'est pour cela que nous avons besoin de votre contribution. Nous travaillons surtout à la définition. Nous n'avons pas encore décidé de façon générale la définition du nom géographique, du nom de pays ou du nom de territoire. Nous attendons votre contribution. Jusqu'au moment de cette réunion, nous avons parlé de l'utilisation du nom à deux caractères. Je crois que c'est le plus important pour les CC. Nous ne savons pas si c'est la meilleure solution parce que nous nous servons du code ISO. Et voilà ce qui se passe dans le monde avec les codes de pays géographiques. C'est intéressant au point de vue des noms génériques ou au point de vue des codes de noms de pays pour voir comment nous pouvons aller de l'avant pour l'avenir. Nous vous serons très reconnaissants de nous faire de commentaires à cet égard. L'Argentine prend la parole. Merci, Annebeth. Je suis aussi très heureuse de voir que l'on ait modifié l'horaire de la téléconférence pour pouvoir y participer. Est-ce que l'on pourrait avoir sur l'écran la prochaine diapo pour voir quels sont les objectifs de ce groupe de travail? C'est un vrai défi à relever. Je vous remercie des commentaires faits par tous les collègues. Nous devrions faire disparaître peu à peu les incertitudes pour les candidats, pour les pays et pour les communautés. Voilà donc le défi à relever dans notre travail. Réduire le nombre de conflits sur les résultats et présenter un certain nombre de documents pour que l'ICANN tienne présente à l'esprit pour le prochain, je ne sais pas si on va l'appeler le guide de candidature, mais les normes écrites pour la prochaine série de télé. Bien sûr, cela doit être fait avec le consensus du GAC et pas pour l'opinion de certains seulement pays. Nous avons travaillé sur une nouvelle version du document. Vous avez la version préalable. Nous travaillons sur une nouvelle version où nous avons fait une analyse précise des points concernant les aspects juridiques. Et cela a été le résultat de la période de consultation publique. Nous avons abordé cela à Singapour et nous avons fait aussi une analyse des soucis de communauté. Nous avons reçu quelques commentaires à Singapour et nous avons continué à travailler sur cela après cette réunion. Cela concernait le fait de savoir si les noms géographiques sont liés au nom des communautés et aux candidatures communautaires, ce qui s'est passé avec les candidatures communautaires et quels défis elles ont dû relever. Nous avons révisé toute la transcription de la réunion de Singapour et plusieurs collègues ont dit qu'il pouvait être intéressant de définir, et important de définir ce qu'est l'intérêt public. Après une analyse approfondie, nous avons vu qu'il était très difficile de définir cet intérêt public qui n'est pas clairement défini. Il peut y avoir différentes perspectives pour la définition de l'intérêt public que nous allons donner d'ici peu. D'après ce que les États-Unis a demandé aussi dans la prochaine version du document de la consultation avec le conseil d'administration et le GAC sur les noms géographiques. Je ne sais pas si c'était de cela que tu parlais, Suzanne. C'était une réunion de 2011. C'était de ce document-là que tu parlais lorsque tu as parlé lors de la communication téléphonique. Les États-Unis prennent la parole. Merci, Olga. Comme il s'agissait d'un document qui devait présenter une révision historique de la manière dont le GAC avait abordé tout ce thème, et l'Allemagne peut peut-être préciser un peu les choses. La question était de voir comment le GAC avait abordé ce thème pour créer ce tableau de bord sur la question des noms géographiques pour les nouveaux GTLD. Surtout parce que nous avons compris que nous devrions changer notre position parce que nous n'avions pas de base juridique pour voir dire que nous avions la titularité, le droit de titularité sur ces certains noms géographiques. Je voudrais avoir un document d'un tiers, d'une tierce partie neutre ou une référence pour que la communauté puisse utiliser ce document comme référence lorsque nous demandons la protection d'un pays avec un code à deux caractères, avec deux lettres. Il se peut que pour ce cas-là, on n'applique pas l'ISO 3166. Nous n'avions pas de document de référence pour les GAC. Et pour indiquer que ce document pouvait être utilisé pour savoir ce qui était protégé et ce qui ne l'était pas. Je crois qu'il faudrait revenir en arrière dans le temps et réfléchir au fait de savoir si nous avons abordé ces problèmes ou pas. L'Argentine prend la parole. Donc, l'idée est d'inclure ce document comme une référence pour avoir un tour d'horizon complet. L'Allemagne demande la parole et prend la parole. Merci. Comme on m'a posé une question, je voudrais y répondre. Mon point de vue pour ce débat, nous avons eu des propositions pour la protection de nos géographiques. Nous avons appris aussi qu'il est difficile de parvenir à un accord pour définir des listes ou des noms clairs. Je ne suis pas sûr à 100% qu'il s'agisse de noms géographiques parce qu'il y a parfois des espaces un peu indéfinis. Mais l'idée était la suivante. Il fallait établir un processus de négociation. Il fallait dire clairement que le GAC pouvait donner son avis pour les nouveaux GTLD. Ce serait un outil pour nous permettre de préciser qu'il y a un accord entre le gouvernement respectif ou l'entité gouvernementale respective et le titulaire de nom de domaine, parce que dans ce cas particulier, c'est le candidat. On pouvait parvenir à un accord mutuel et l'instrument utilisé, c'était l'avis du GAC. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons dans notre premier avis, nous avons beaucoup de noms géographiques parce qu'il y a des pays dont les noms ont été considérés par différents gouvernements comme des noms géographiques. Je pense que nous pouvons offrir notre expérience, l'expérience de l'Allemagne. Notre pays est un pays qui a beaucoup de noms géographiques et les candidatures avec des noms géographiques ont été très nombreuses. Dans la première série, il y en a eu 7 liées à l'Allemagne. Et notre expérience nous a permis de voir qu'il faut dire aux candidats en Allemagne qu'il faut essayer de trouver le soutien du gouvernement local. Nous avons toujours dit que nous ne voulions pas verrouiller un TLD. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulions avoir des critères, une orientation pour les nouveaux GTLD. Nous ne voulions pas arrêter les candidats dans leur demande de TLD. Nous ne voulions pas éviter d'accorder ces TLD. L'Argentine prend la parole. Merci l'Allemagne. Avant d'aborder l'analyse des questions légales et des questions liées à la communauté à Singapour, il y a eu des commentaires sur les candidatures communautaires. Cela est en quelque sorte lié à ce qui aurait dû se passer si ces noms géographiques avaient été présentés comme des candidatures communautaires. Nous avons vu qu'il y a eu des difficultés. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la communauté dans le public pour donner un commentaire sur le progrès de ces candidatures communautaires et les défis qu'il a fallu relever dans ce processus d'évaluation. Giacomo?
Merci. Je vais vous prendre la parole. La question des candidatures communautaires ne va pas très bien. Après, on va se concentrer. Il y a un document que Marc Harvel a préparé à ce propos. La réalité, c'est que toutes les candidatures communautaires qui étaient en litige sont maintenant verrouillées. Il n'y a aucune ayant été essayée. Si il y avait un concurrent commercial, le résultat général n'est pas bon. Et je crois qu'en ce moment, le fait de parler d'une nouvelle série de GTLD jusqu'à ce que cet énorme problème ait été résolu, eh bien, je crois que ce serait de la science-fiction. Si nous regardons la situation de litige avec tous les IRP émis par le conseil d'administration, tout cela a trait aux candidatures liées au code géographique ou aux communautés. Alors là, il y a un problème. Il y a une autre question, une autre suggestion. Milagro a mentionné l'OMPI. Moi, je crois aussi que l'ISO pourrait aussi nous aider dans cet effort. Si nous commençons à penser vers l'avenir et nous mettre en contact avec ces organisations pour recevoir du soutien. Si l'on parle de nom géographique, et nous savons que cette question est débattue dans d'autres forums, alors on peut demander de l'aide. Merci, Giacomo, de ta suggestion. Scott prend la parole. Merci. Je voudrais aussi faire mes commentaires comme quelqu'un qui est dans la sixième année d'un processus pour Point Gay. Et dans un processus de 2 ans, nous avons reçu notre deuxième évaluation CPE. Ce que nous avons appris de la première évaluation CPE, c'est 2 choses, à savoir, d'une part, considérer les définitions qui répondent aux intérêts publics et savoir si on le fait ou pas. Cela est tout à fait subjectif et j'encourage de continuer le travail en faveur de l'intérêt public. On mentionne aussi que dans le cas d'une candidature commerciale avec une candidature communautaire, les définitions et les protections autour de ce que l'on considère des activités non appropriées pour présenter des objections et des plaintes pour verrouiller des candidatures. Alors, ces choses ont été évaluées au cas par cas. Et ce qui est important, c'est la transparence dans le processus de EIU qui a beaucoup de défaillances. Cela est basé dans des définitions trop courtes sur ce que veut dire une communauté dans notre cas où l'on perd de vue beaucoup des arguments que nous avons présentés. EIU utilise le dictionnaire Oxford pour définir la communauté au lieu des 250 organisations dans plus de 1500 sièges dans 20 pays, dans 105 pays. 110 pays, pardon, qui représentent 20 millions de membres de cette communauté. Alors, nous pourrions avoir des points non transparents par rapport au processus de définition ou à la manière dont cela peut aller de l'avant. Les TLD de pays ou les pays ou les TLD régionaux pourraient se voir confrontés aux mêmes situations. Merci, Scott. Il semblerait que le concept de communauté fait l'objet aussi d'un débat. Peut-on passer à la prochaine diapo, Julia, s'il te plaît? L'Iran prend la parole. Merci. Je voudrais une précision par rapport à la diapo précédente. On peut revenir en arrière, Julia, s'il te plaît? C'est Olga Cavalli qui pose la question. L'Iran. Je veux demander une précision. Au point numéro 3, on suggère que les noms géographiques lors de la nouvelle série des nouveaux GTLD devraient être limités aux candidatures communautaires parce que la rédaction semblerait dire ça. Ma langue maternelle est l'espagnol, c'est peut-être que je ne connais pas trop bien l'anglais. La question est que nous avons eu des conflits avec des noms géographiques et plusieurs membres de ces communautés nous disaient pourquoi ils n'avaient pas présenté la candidature de ce nom géographique comme une candidature communautaire. Et par la suite, on a vu que ces candidatures avaient des problèmes pour avancer. Je m'excuse de ma méconnaissance de l'anglais. Ce n'est pas l'idée de ce point-là. Julia, on pourrait passer à la diapo suivante. On n'a pas beaucoup de temps et je voudrais revoir un tout petit peu avec vous ce résumé. Ce sont les inquiétudes de la communauté qui ont été présentées dans la période de commentaires publics et aussi les inquiétudes du point de vue juridique. Elles sont différentes et c'est un véritable enjeu de trouver la manière de réconcilier ces deux groupes de préoccupations ou d'inquiétudes. Mais voilà notre enjeu, notre travail. Il faudrait essayer de le faire. On n'en est pas encore là. Les commentaires de la CCNSO, j'ai signalé une partie de ces commentaires, parlent d'éviter des discussions qui prennent très longtemps et des désaccords. Et l'ICANN et le gouvernement encouragent les candidats à prendre contact avec le gouvernement pour essayer d'arriver à un accord. Et ils parlent du concept de l'intérêt public et qu'il faut donner la priorité à l'intérêt public. La LAC signale que la LAC favorise le renforcement du lien de la candidature pour un TLD géographique et l'intérêt public de la région géographique pour laquelle on cherche ce TLD. Cette idée apparaît deux fois, cette idée de l'intérêt public. Alors, je pense qu'il est essentiel de voir dans ce processus la manière dont nous pouvons encourager les candidats ou les parties prenantes à établir un contact précoce, le candidat et la communauté concernée dans le conflit. Diapo suivante, s'il vous plaît, Julia. D'autres commentaires d'étapes précédentes de notre groupe de travail ont abordé la signification du nom géographique. Quelle est la signification pour les citoyens et pour les communautés? Ce nom peut avoir une valeur économique, non seulement pour le candidat qui demande ce TLD, mais aussi pour les sociétés du pays qui ont déjà enregistré leur marque commerciale en vertu des lois nationales. Alors, voilà quelque chose qu'il faut aborder au niveau national. Beaucoup de sociétés ont déjà ce nom géographique comme marque déposée sous les lois nationales. Ils paient des impôts. Ce sont des sociétés autorisées qui fonctionnent dans chacun des pays. Alors cela présente un conflit parce qu'on ne peut pas aller contre un nom qui fait référence à des sociétés existantes dans un pays alors qu'un TLD est une référence globale ou mondiale de ce nom. Bien entendu, il y a la valeur historique pour les citoyens et pour les communautés qui est une question vraiment importante. Voilà les inquiétudes du point de vue juridique. Je passe la parole au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, merci. Je regrette de vous interrompre dans votre présentation, mais cette question est centrale et je ne suis pas sûre de ce que l'on fait pour trouver une solution. Je suis tout à fait conscient du niveau de préoccupation des petites et moyennes entreprises face à la possibilité d'une nouvelle série de candidatures de nouveaux GTL. Il doit y en avoir beaucoup dans cette situation d'avoir un nom qu'ils ont depuis longtemps, un nom autorisé, comme vous l'avez bien dit. Et je ne serai pas pour des signaux apparaissant après ces discussions pour ce qui est des difficultés. Je veux simplement dire qu'il s'agit d'une question très importante de ce travail et qu'il faut faire très, très attention compte tenu des intérêts économiques et des intérêts des sociétés. Merci, le Royaume-Uni. Je suis d'accord avec vous, dit Olga. Il y a des petites entreprises, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais les moyennes et les grandes entreprises établies dans le pays, par exemple Patagonia, il y a 200 sociétés qui ont ce nom, du tourisme, de la viande, etc., etc. Il y en a qui sont petites et d'autres non. Si la société est dûment constituée, paie des impôts, si ces sociétés ont enregistrer les marques d'après la loi nationale, ces sociétés ont des droits. Il faut considérer ceci au niveau national. Ceci peut arriver dans d'autres pays avec d'autres noms géographiques. L'Allemagne prend la parole. Merci. Je soutiens les collègues, les propos de mon collègue du Royaume-Uni. Pour ce qui est des marques commerciales et des droits qui pouvant être violés dans ce sens, je crois qu'il y a des réglementations et nous ne devons pas réinventer la roue, hein, pour ce qui est des noms géographiques. La question est, que se passe-t-il si l'on a une marque commerciale dans un pays et un autre dans un autre pays? Et le candidat maintenant vient d'un tiers pays. Alors, c'est ce genre de choses qui me semble importante, des choses qu'il faut sur lesquelles il faut trouver une solution à partir de l'ICANN. Et ce serait vraiment bizarre si l'on cherchait des solutions ici, sous le parapluie des noms géographiques. Merci. L'Argentine prend la parole. Merci, l'Allemagne. Pour des questions de temps, je veux vous montrer les préoccupations juridiques. C'est quelque chose que nous avons accordé à Singapour. On a promis de les analyser de près parce qu'elles existent, elles sont en vigueur et elles sont la raison pour laquelle certaines des sociétés ont présenté des candidatures, des GTL, de listes de noms qui n'étaient pas sous l'ISO ou sous les Nations Unies. Les candidats, et je comprends bien les raisons pour lesquelles les candidats ont avancé, ils ont ces préoccupations juridiques. Voici un résumé. Le document contient beaucoup plus d'informations détaillées. Mais les États souverains n'ont pas le droit sur l'utilisation des noms géographiques en dehors de leurs frontières. Cela concerne le point que l'on discutait tout à l'heure. Voilà, c'est un résumé des commentaires reçus. Ce n'est pas moi qui dis ça. Ce sont les commentaires reçus, ce n'est pas mes propos à moi. Les noms géographiques peuvent être utilisés comme marque commerciale si cela a lieu dans ce pays, mais pas porter préjudice aux titulaires des marques commerciales. Les droits des marques commerciales sont des droits légaux de propriété. Il existe des forums internationaux pour résoudre des conflits liés aux termes liés aux marques commerciales. Le droit international a un ensemble défini de sources. Les noms géographiques ne sont présentés dans ces lois que pour la manière dont ils peuvent être décrits dans l'origine du produit, dans l'appellation d'origine. Pour des intérêts gouvernementaux, certains noms et certains symboles ne peuvent pas être de la propriété privée. Ils sont exclus. Et cela exclut les noms de pays et les noms géographiques. En conséquence, les gouvernements peuvent ne pas avoir des droits exclusifs ou prioritaires sur des noms géographiques ou des noms de pays. Je ne sais pas si on peut passer à la diapo suivante. Le document a une explication très détaillée de ces commentaires reçus. Ce que nous voyons lorsque l'on analyse ces commentaires, c'est qu'il y a deux points de vue tout à fait différents. D'une part, le point de vue du cadre juridique et d'autre part, les intérêts des communautés au niveau national. Alors, comment pouvons-nous trouver une manière d'améliorer les règles de la prochaine série et essayer de réconcilier ces deux perspectives tout à fait différentes? Combien de temps? J'ai 2 minutes. Il me reste 2 minutes. Alors, nous allons finir en 2 minutes. Le document, et je crois que cela a été partagé avec vous, contient une analyse de l'intérêt public. Nous avons fait une recherche dans différents documents qui ont été élaborés par l'ICANN sur le terme intérêt public qui est mentionné de nombreuses fois, mais qui n'est pas bien défini. Il peut vouloir dire différentes choses pour les différents pays. Pour certains, c'est l'intérêt public de la communauté qui a ce nom, la valeur pour la communauté, pour les propriétaires des marques commerciales. Il peut s'agir du respect des réglementations qui octroient les droits pour utiliser justement la marque commerciale. Alors, voilà les différents points de vue de l'intérêt public. Alors, on n'a pas trouvé la définition dans le document. Nous avons reçu des commentaires de la Suisse pour progresser vers une vision pragmatique de l'intérêt public en essayant de trouver des exemples. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais passons à la prochaine diapo, s'il vous plaît. J'aimerais passer à la prochaine diapo encore pour des questions de temps simplement. Il y a quelque chose qui pourrait être essentiel, bien que je ne sais pas si on peut continuer de l'analyser. Je voudrais finir avec ça et travailler plus tard avec vous par courrier électronique. Je vous propose de voir comment essayer de refléter dans un document cette idée d'une participation précoce entre le candidat et la communauté du pays ou de la région géographique concernée. Je crois qu'il s'agit, c'est une idée personnelle. Je ne sais pas si c'est réel, mais j'ai l'espoir, s'il y a des cas de contact précoce entre le candidat et le domaine concerné, on pourrait raconter davantage de succès au lieu d'autant de conflits. Voilà ma sensation après avoir lu tellement d'opinions. Comment pouvons-nous refléter cela et comment un document pourrait-il être écrit de sorte à ce que ce contact précoce soit effectivement matérialisé ou produit? Je n'ai pas plus de temps. Non, ça y est. Alors, si vous avez des commentaires à faire ou des questions, je vous encourage à m'envoyer un courrier à moi-même ou au groupe de travail à l'adresse de courrier du groupe. Merci beaucoup de votre attention. Et nous continuons à travailler sur cette question. Merci beaucoup.
Thank you very much.
Merci beaucoup, Olga. Nous avons maintenant une séance avec la LAC. J'en ai vu quelques membres qui sont entrés dans la salle. Nous devrions peut-être leur faire un peu de place, non? Pour qu'ils puissent s'asseoir peut-être avec nous au podium. Et les autres, bon, peuvent enfin se rapprocher de nous. Au cas, ils voudraient échanger avec nous et nous devrions avoir des micros disponibles pour eux pour qu'ils puissent s'exprimer.
Okay, well,
Thomas Schneider prend la parole. Bien, nous continuons à faire des petites modifications ici, des modifications physiques pour pouvoir enfin nous installer. Mais nous allons commencer notre séance avec la LAC pour aborder des questions que nous avons en commun. Il y a plusieurs thèmes que nous voudrions aborder pendant cette séance, suivant notre ordre du jour. Nous pouvons les aborder tous et bien sûr nous pouvons aussi aborder les questions concernant la transition des fonctions Yana et la responsabilité ainsi que les questions liées aux sauvegardes dans les engagements d'intérêt commun 1 et 2 ainsi que les noms géographiques et tout le reste. Bon, Alan Greenberg prend la parole. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup plus de thèmes dans notre ordre du jour que les thèmes que nous allons pouvoir aborder. Donc je regarde Thomas pour voir s'il peut me donner une orientation sur le thème qu'il voudrait aborder en premier lieu avant d'utiliser notre temps. On peut le faire dans l'ordre où l'on voudra, mais je voudrais consacrer quelques minutes à ce que nous faisons en ce moment parce que nous travaillons encore sur les engagements d'intérêt commun, les PIC, par rapport aux sauvegardes de catégorie 1. De catégorie 1 pour les sauvegardes 1 à 8 pour les TLD. Et bien sûr, nous pouvons partager avec vous expliquer quelle est la situation où nous nous trouvons. Nous sommes assez près de la fin. La question du CCWG, nous ne pouvons pas encore le considérer terminé, mais nous pouvons dire quelle est la position de la LAC. Nous avons une séance de 5 heures programmée pour cet après-midi. Je ne peux pas dire que nous ayons déjà une conclusion définitive par le CCWG. Il se peut que vous vouliez d'abord aborder la question des pics, des engagements d'intérêt public, parce que c'est une question un peu plus courte pour nous, de notre perspective. Vous savez qu'il y a eu différents débats entre les membres d'At-Large et les membres du GAC, les registres et d'autres parties prenantes. Lors de la dernière réunion, nous avons présenté une analyse de l'At-Large. Et pour être sincère, c'était l'analyse faite par 3 personnes qui ont travaillé de façon très active pour la réaliser, cette analyse. Sur 39 candidatures de TLD, parce qu'il y avait des cas où il y avait plusieurs personnes qui présentaient leur candidature pour la même chose, et nous avons fini par classer 7 de ces cas comme quelque chose qui devait être modifié. Une quinzaine ou une vingtaine en étaient classées à 20. Nous avons pensé que les registres, les opérateurs de registres faisaient un bon travail. Thomas Schneider, et le reste était enfin à remettre en question. Thomas Schneider prend la parole. Excusez-moi de vous interrompre. Vous connaissez tellement cela que ce serait peut-être utile, nous pensons, que vous donniez une idée rapide aux nouveaux membres du GAC de ce dont nous parlons. Nous parlons en particulier des chaînes de caractère sensibles pour les secteurs réglementés de l'industrie où il y a des questions concernant les consommateurs. Et ceci concerne l'avis en termes de sauvegarde présenté par le GAC. C'est un avis qui date d'il y a plus de 2 ans. Cela date de la réunion de Beijing. Il y a eu des échanges très nombreux entre le GAC et le conseil d'administration et la LAC et d'autres communautés pour établir des sauvegardes appropriées pour les consommateurs. En particulier, ces 39 dont Alan parle sont des candidatures liées directement à ces chaînes de caractères sensibles. Je voulais préciser cela parce que tout le monde peut ne pas être au courant de ce point. Alan Greenberg prend la parole. Oui, merci de m'avoir arrêté. Alors, pour résumer, nous pensions qu'il y avait suffisamment de chaînes de caractère pour lesquelles les candidats avaient fait un travail approprié. Il y avait certains thèmes qui étaient liés à une menace potentielle pour les consommateurs. Et il y en avait d'autres pour lesquelles nous ne sommes pas très clairs. Le texte du contrat est assez vague et nous ne savions pas où les opérateurs de registre, ce que les opérateurs de registre planifiaient. Il y en avait qui ont été enfin considérés avec une marque rouge et il y en a d'autres que nous avons considérés avec une marque verte parce qu'ils étaient corrects. Mais bon, pour le moment, c'est ce que nous avions dit à l'époque. Nous avions donné notre avis, présenté notre avis au conseil d'administration pour arrêter la passation de contrat et la délégation de tous ces TLD. Cet avis n'a pas été rejeté, mais il n'a pas été non plus appliqué. L'on a poursuivi avec la passation de contrat et avec la délégation. Le conseil d'administration se trouve dans une situation assez bizarre parce que nous n'avons pas de mécanisme pour résoudre ce problème une fois passé les contrats, une fois signé les contrats. Nous sommes dans la situation où nous sommes. Nous continuons d'aller de l'avant à cet égard pour essayer de voir que la position que certaines personnes ont prise ne soit pas prise pour la position de la LAC. Nous voulons que ce soit la position de la LAC qui sera présentée après. Il y a certains thèmes dans lesquels le GAC a donné aussi son avis et parfois vous sentez qu'on ne vous écoute pas. Je crois que nous avons enfin appliqué tout ce que nous pouvions appliquer. Nous avons exercé toutes les facultés qui étaient les nôtres. Mais maintenant, il faut que nous revenions avec cette balle du côté du GAC pour voir ce qui peut être fait. Cela prouve qu'il faut qu'il y ait quelque chose de différent dans tout le processus. Ce processus est long, il se peut qu'il faille le diviser en différents processus. L'idée est de tirer une leçon de tout cela et voir comment nous pouvons modifier cette situation, remédier à cette situation pour ne pas porter préjudice aux consommateurs. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à cette question en ce moment. Je ne sais pas si quelqu'un aurait des commentaires. Thomas Schneider prend la parole. Merci Alan. La question de la mise en œuvre, enfin, pour savoir comment Les camps peuvent faire pour que les registres, les opérateurs de registres mettent en place les sauvegardes appropriées mérite un débat. Et je vais céder la parole aux membres du GAC pour qu'ils posent des questions ou pour qu'ils expriment leurs avis, leurs opinions. L'une des possibilités serait de voir le travail fait par la LAC depuis la réunion de Singapour pour envisager de façon pragmatique et comme Alain l'a dit, voir quelle peut être l'explication réelle des sauvegardes et des engagements d'intérêt public fait par les registres, les opérateurs de registres, les classer à différents niveaux par rapport à la manière dont ces sauvegardes ont été appliquées ou pas. Je crois que nous devons analyser tout cela aussi bien au point de vue du GAC. Je ne sais pas si cela apparaît dans la liste de diffusion publique ou si on peut l'envoyer aux membres du GAC pour qu'ils puissent le voir. Alan Greenberg prend la parole. Hier, pendant l'après-midi, on a dit qu'il y avait une erreur potentielle critique que nous essayons de corriger maintenant. Mais je pense que nous pouvons vous envoyer cela. Je pense qu'à la fin de la journée ou vers la fin de la semaine, vous allez recevoir ce document pour voir de quoi on vous parle. L'un des problèmes réels auxquels nous faisons face, c'est que nous ne pouvons pas dire que l'on portera préjudice à quelqu'un. Ce n'est que notre perception. Nous analysons les TLD, nous essayons d'imaginer comment ils vont être utilisés, quelle va être la réaction des consommateurs. Et nous essayons de prévoir quelque chose, mais nous ne pouvons pas être sûrs. Certains TLD que nous avons analysés pourraient être soumis à des questions de hameçonnage. Ça peut être, bon, vous savez, quelque chose comme Point Banks. Le Point Bank était l'un des qui pouvait avoir des problèmes. Mais ceux qui cherchent des occasions de pratiquer le hameçonnage vont trouver là l'occasion appropriée pour le faire. Il y en aura d'autres qui seront peut-être plus subtils. Il se peut que d'ici 2 ans, nous sachions que nous avons eu raison, mais pour le moment, nous n'avons pas le moyen de dire que quelque chose va porter préjudice à quelqu'un. Voilà. Thomas Schneider prend la parole. Merci. Je crois que c'est ce qui arrive aussi dans d'autres, dans d'autres cadres ou pour d'autres cadres réglementaires. L'Union européenne voudrait faire un commentaire ? Alors, l'Union européenne prend la parole. Pour souligner l'importance de ce que le GAC a exprimé dans les sauvegardes. Et moi, je ne crois pas, et je crois que c'est une question de politique publique. Je ne pense pas que nous ayons besoin de prouver la possibilité d'un usage abusif pour introduire les sauvegardes. L'objectif de sauvegarde consiste justement à éviter le préjudice. Nous devons être très clairs et faire très attention à ne pas demander des preuves ou de démonstrations du désastre lorsque justement nous essayons d'éviter cela. Cela a été une position cohérente du GAC ces 2 dernières années et Thomas peut vous dire ce que nous voulons faire à ce propos, mais l'idée est d'inclure quelque chose là-dessus dans le communiqué. Plus nous travaillerons ensemble ou en collaboration, plus nous aurons des meilleurs résultats. Thomas Schneider prend la parole. Merci. La Commission européenne, est-ce que vous avez d'autres commentaires ? L'Espagne prend la parole, puis Olivier. L'Espagne prend la parole. Je veux simplement rappeler aux membres du GAC qu'il y a une étude faite par Arquitelos sur les usages abusifs dans les nouveaux GTLD qui a été diffusée dans la liste de diffusion du GAC. Je crois que c'est important de voir cela, c'est intéressant, parce que cela montre que les nouveaux GTLD ne se sont pas vraiment développés jusqu'ici, parce qu'il y a peu de temps qu'ils sont sur le marché. Mais il y a déjà un taux de cas abusifs, d'usage abusif qui, devrait susciter notre inquiétude. Je parle de hameçonnage et d'usage abusif. Merci. Thomas Schneider prend la parole. Merci beaucoup de l'avoir signalé. Olivier Crépin-Leblanc prend la parole.
Je voudrais dire et corriger qu'il y a 39 chaînes de caractères qui sont dans la catégorie 1 et il n'y en a que 5 en rouge. a credit card, doctor, lawyer et loto. Nous avons pris une décision sur les pays céréales et aussi sur la spécification 12 qui est dans le contrat. On nous a dit que ces chaînes de caractères peuvent à un moment donné avoir des accords internes au niveau du registre, mais si ce n'était pas inclus dans le contrat, ceci ne serait pas opposable et dépendrait de la bonne volonté du registre lui-même. Il existe certaines préoccupations, notamment sur les chaînes de caractères sensibles dans certains pays. Il y a certaines industries réglementées dans certains pays. Comme Alan l'a dit clairement, on peut marquer en vert beaucoup de chaînes de caractères. Nous croyons que ce serait juste et que probablement ce serait un bon pas en avant pour participer du dialogue et permettre d'inclure ces chaînes dans la liste de catégorie 1. Je suis donc confiant pour ce qui va se passer avec ces investisseurs et ces clients pour aller de l'avant, parce que le fait est de mettre cela en place de manière satisfaisante pour protéger les utilisateurs finaux et l'intérêt public en dernier ressort. Alan, merci. Thomas Schneider, merci. Olivier, merci. Lalac, je crois que le GAC peut considérer cette question et aussi avoir une idée de l'utilisation, une opinion de l'utilisation de cette liste. Vous savez que nous devons travailler dans le communiqué. Alors, si le GAC a cette liste dans les plus brefs délais, il pourra faire des commentaires. Alan Greenberg, je m'engage. Ce soir, avant de me coucher, je vais vous envoyer quelque chose. Thomas Schneider, oui, Royaume-Uni. Le Royaume-Uni prend la parole. Très brièvement, je veux dire que nous avons fait des consultations avec des experts de réglementation sur les jeux de hasard, sur Point Casino. Nous savons qu'il est inclus dans cette liste. Et je veux signaler que nous sommes préoccupés pour des sauvegardes spéciales dans ce secteur et dans d'autres, bien entendu, mais c'est l'idée qui me vient en ce moment. Thomas Schneider, je crois que nous allons faire un bref commentaire et il faut finir. Ici, j'ai des chaînes de caractères à répondre. Et puis, vous pouvez continuer le débat bilatéral. Alan Greenberg, nous, au sein du GAC, nous avons demandé au GAC 8 sauvegardes. Pardon, le GAC a demandé 8 sauvegardes. Il y en a 5 dans le processus de GTLD et il y en a 2 qui sont liés à la vérification des références. Le dernier a trait aux interactions avec les questions réglementaires. Il y a un pic qui a été demandé et qui a été un peu significatif, disons. Il faut demander l'interaction, essayer de parler avec eux, voir s'ils répondent au courrier électronique. Je crois que c'est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés. L'une des exigences, c'est d'interagir là où la réglementation est claire. Thomas Schneider, merci. Je crois que nous devrions passer maintenant à un autre point, mais je vois que vous parlez ici du troisième programme de formation des leaders de la transparence. Je ne sais pas qui va faire cette présentation. Ceci ne devrait pas nous prendre très longtemps. Alan Greenberg, le programme de formation de direction, le LTP, a été proposé comme première démarche pour que lorsque les gens commencent à travailler au sein de l'ICANN ou même des gens qui ont travaillé pendant 10 ans, pour qu'ils connaissent davantage. Ceux qui ont participé du programme, 2 personnes par an par groupe, c'est-à-dire on a eu beaucoup de succès, tout le monde a été très content avec ce programme. Ceci a été démarré comme un projet d'ALAC et il y a des gens qui ont commencé à participer, ces gens sont toujours concernés. Et c'est un programme que l'ICANN avait déjà. Il y a des questions pour voir où, comment on fait les appels, le site web de l'ICANN, mais nous vous recommandons que si vous ne l'avez pas utilisé, eh bien, vous pourriez en profiter. On ne peut céder que deux places. Moi, je l'ai fait l'année dernière et ça a été vraiment bien d'assister à ce programme. Thomas Schneider. Alors, où aller pour avoir pour plus d'informations? Alan Greenberg, je crois qu'il faudrait poser la question d'abord à la présidence. Qui veut aller? En général, c'est fait entre mercredi et jeudi. La prochaine réunion aura lieu avant la réunion de Dublin. Je n'ai pas reçu les demandes d'at-large, alors je ne sais pas quand est-ce que cela aura lieu, mais je suppose que cela aura lieu dans les plus brefs délais. Thomas Schneider, merci. Les membres du GAC vont pouvoir y participer et nous saurons qui sont en charge de ce programme en temps opportun pour vous passer l'information, que vous sachiez combien de temps ça dure, où cela va avoir lieu et quelles sont les conditions de participation. Un orateur non identifié prend la parole. Oui, c'est pour participer du programme de leadership, mais l'Académie de l'ICANN est un groupe de l'ICANN et toute la communauté, toutes les parties intéressées participent de ce groupe. Je ne sais pas s'il y a un membre du GAC. Sinon, je vous propose d'envoyer quelqu'un pour faire partie du groupe. Olga prend la parole. Merci. Moi, personnellement, j'ai exprimé mon intérêt de travailler dans le groupe de travail de l'Académie. Mais corrigez-moi si je me trompe, Monsieur le Président, il n'y a pas eu d'invitation formelle au GAC pour désigner des membres. Alors, je vous demande de faire des commentaires à cet égard. Alan Greenberg, une des personnes qui est très intéressée, je crois que vous allez recevoir des informations dès que possible. Thomas Schneider, je crois qu'on a fini avec cette question, mais je vous propose de maintenir ce contact et de maintenir le contact avec le GAC. Alan Greenberg, oui, je me rends compte que nous pouvons prendre en charge plus de personnes par région. Alors, c'est un peu plus. Je me corrige. Thomas Schneider, on va aborder d'autres questions. Et nous devrions maintenant débattre la question de la transition de l'IANA, le CCWG. Je vois aussi que dans notre ordre du jour, nous avons les noms géographiques, mais je crois qu'on peut le reporter à plus tard. Je crois que ce serait mieux de commencer à parler de la transition du rôle de supervision des fonctions IANA pour pouvoir où on en est dans les deux processus, le processus de responsabilité ou de reddition de comptes, le processus de transition du rôle de supervision, pour que vous nous racontiez un tout petit peu quels sont les commentaires que vous allez faire à l'ICG sur la proposition préliminaire ou la proposition finale plutôt, pardon, du CCWG. Et aussi savoir quelles sont les réflexions que vous avez par rapport au travail du CCWG. Aussi, quel est le processus d'ALAC pour faire des commentaires à ce propos. Alan Greenberg, l'ALAC et la communauté at large ont travaillé très activement dans les différents groupes de travail. Et il y a aussi un groupe qui se réunit presque toutes les semaines pour parler de ces questions pour donner des critères au reste de la communauté à large. Nous avons travaillé très activement et il y a eu beaucoup de représentants de la communauté des utilisateurs. Nous pourrions dire que nous sommes assez satisfaits de la proposition actuelle. La proposition de décembre, eh bien, il y a peu de mots gentils que je puisse utiliser pour cette proposition. Nous l'avons trouvée mauvaise. Mauvaise dans plusieurs sens. Je crois qu'il ne faut pas entrer dans le détail parce que ça y est, c'est quelque chose de passé, mais la proposition sur laquelle nous travaillons est assez proche de ce que nous avons demandé dès le début. Nous avons décidé que nous allons ratifier, et je crois que ce sera fait dans la réunion de jeudi. Je crois que le point de vue ne va pas changer. Nous allons aussi faire des commentaires et nous trouvons que ces commentaires, s'il y a des questions liées à la politique, c'est tard pour les incorporer, mais nous voulons qu'il y ait un enregistrement des domaines où nous trouvons qu'il faudrait faire davantage de travail. Bien que nous ne soyons pas d'accord avec certains détails, nous ne croyons pas que le résultat à long terme soit différent. Ces questions sont concentrées sur des composantes plus vastes des multiples parties prenantes pour la prise de décision. Alors, sans ça, nous croyons que le résultat ne sera pas différent. Peut-être dans le monde, on le voit différemment, mais nous croyons que c'est un plan faisable qui peut être mis en place et nous considérons qu'il sera fiable pour le développement des fonctions IANA dans un futur proche. Il n'y a pas de conditions pour considérer les commentaires avant d'être présentés à l'ICG. Certains commentaires ont trait à la mise en œuvre et alors nous espérons qu'ils seront utilisés comme des critères pour l'avenir. C'est ce que j'ai dit du CWG. Pardon, Thomas Schneider, pardon d'interrompre, mais je voudrais voir s'il y a des commentaires ou des questions dans la salle. Je vois l'Iran et le Royaume-Uni. L'Iran prend la parole. Merci, Alan, de ta présentation. On a entendu le SSAC et nous recevons votre confirmation du fait que la ratification pour le CWG sera octroyé en disant oui, mais s'il y a la satisfaction ou l'acceptation des exigences du CWG quant à son interdépendance avec le CCWG pour que cela soit mis en place. Avec cette condition, on ferait la ratification ou sans déconditionnement et sans qualification. Cela, d'une part. D'autre part, je voudrais savoir s'il y aura ou pas plus d'espace pour commentaires, et maintenant je parle en tant que membre de l'ICG. L'ICG, dès qu'il aura reçu la proposition du CWG, s'il y a des questions pour les trois communautés ou pendant la période de commentaires publics. Et là, on a la proposition de la communauté des noms, de l'IETF. Toutes les questions du public seront analysées par le CWG qui prendra les mesures nécessaires afin de les incorporer à la proposition finale qui sera présentée à la NTIA. Merci l'Iran, le Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Je suis très intéressée au processus de consultation que vous avez mené, par exemple, dans les structures régionales at large. Dans le ministère du Royaume-Uni, nous avons un groupe de conseils multipartites, multisectoriels, où l'on traite la transition des fonctions IANA. Je suis très intéressée à savoir quel est le type de combinaison que vous avez utilisé dans vos structures à large européennes pour faire ces consultations. Si vous avez un document là-dessus, ce serait vraiment très utile pour nous, très informatif, pour voir comment vous avez mené le processus de consultation avec vos structures locales et ce que ces structures locales disent. C'est possible? Oui, Alan Greenberg. Pour ce qui est de la question de l'Iran, d'après ce que nous comprenons, la conditionnalité, parce que c'est le terme correct, la conditionnalité du CWG par rapport au CWG est implicite dans les recommandations. Le CWG a établi clairement que son rapport suppose que le CCWG va livrer ce dont il a besoin et cela n'est pas un point de discussion. Je crois en fait que si le CCWG ne respecte pas ce qui a été décidé, le CWG ne peut pas avancer. Je crois que tout cela est implicite dans le rapport. Quelqu'un l'a décrit comme une pilule venimeuse, parce que si le CCWG ne peut pas respecter son mandat, alors le reste n'existe pas. Je n'ai pas de réponse pour le Royaume-Uni. Les ALS n'ont pas été formellement concernés. Nous avons demandé que toute personne de notre liste de diffusion at large voulant montrer son intérêt, on leur a proposé de se souscrire à la liste liée aux discussions qui abordent ces deux questions, la responsabilité et la transition, et qu'ils participent des téléconférences. En moyenne, on a eu 1h30, 2 heures de téléconférences par semaine pendant les dernières semaines et pendant les derniers mois. Nous avons beaucoup de noms, mais nous n'avons pas essayé de les lier avec les ALS spécifiquement. Thomas Schneider, d'autres questions? L'Indonésie. L'Indonésie prend la parole. Merci, Monsieur le Président.
Je veux faire quelques commentaires par rapport au CWG et au CCWG, parce que les deux groupes essaient d'avoir la contribution de la communauté. Maintenant, nous estimons que tous les pays n'ont pas des communautés Internet fortes. Par exemple, la communauté Internet indonésienne n'est pas aussi forte que celle de la Grande-Bretagne ou de l'Argentine ou des États-Unis. Vous le comprenez ici dans cette réunion, 53e réunion de l'ICANN. Qui est-ce qui est venu de l'Indonésie? Que le représentant du gouvernement? Parce que nous n'avons pas un pays avec des communautés Internet aussi fortes que celles d'autres pays avec des économies plus développées, plus fortes, où le revenu par habitant est beaucoup plus élevé. Il y a des pays qui sont venus à Singapour, il y a eu des représentants, parce qu'à Singapour, c'était plus près de l'Indonésie, mais il faut tenir compte du fait que les communautés de tous les pays ne sont pas incluses. Il n'y a que les communautés robustes qui peuvent avoir une participation là. En ce sens-là, donc, la vie du GAC sera plus importante, parce que nous battons pour inclure les communautés de nos pays dans nos interventions, dans nos débats, dans nos contributions. C'est la parole des communautés, c'est la voix des communautés qui doit être prise de façon très prudente. Une autre considération par rapport à la formation dont vous avez parlé, je sais que c'est un autre thème, mais nos leaders devraient savoir que nous vivons dans ce monde qui n'a plus de frontières maintenant. Ici, donc, on voit que nos capacités sont sous un effet déterminé, parce qu'il faut savoir quelles sont les fonctions des capacités des pays eux-mêmes qui nous permettront de travailler avec ces frontières et de travailler avec cette absence de frontières. Cela dépend pour beaucoup de la capacité de chacun des pays. Nous parlons ce matin des TRIPS, de l'OMPI et des ADPIC, à vrai dire. Nous parlons d'un monde sans frontières et c'est un monde très différent de celui que nous connaissions auparavant, où il y avait de frontières. Alors, lorsque les gouvernements et nos leaders font des réglementations, des commentaires ou des contributions au processus du CWG ou du CCWG, il faut tenir compte de ces aspects. Thomas Schneider prend la parole. Je crois que Alan et Cheryl voudraient répondre à cela. Alan Greenberg prend la parole. Vous avez raison, en un certain sens, que cela dépend du niveau du pays. mais cela dépend aussi des intérêts des individus en tant que tels. L'une des voix les plus qui se font entendre le plus fortement au sein de At Large vient du Nigeria. Mais cela dépend de cette personne qui a décidé de consacrer énormément de temps et d'efforts pour pouvoir faire cela, et qui a un soutien pour ce faire. Nous avons beaucoup de pays très développés qui n'ont pas participé au moins au processus d'At Large. Donc, cela dépend surtout des intérêts des individus, en plus de l'État, du pays. Sherry London Orr prend la parole. Merci, Thomas. J'ai pu participer dans les deux groupes, le CWG et le CCWG. Je voulais m'en remettre à la question sur la participation. Alain ne s'en souvient pas aussi rapidement, mais bien sûr, les critères pour l'information qui est donnée et l'information que le personnel a collectée concerne les mécanismes de diffusion externe utilisés par tous les parties composantes, les différentes communautés. C'était l'un des critères qu'il fallait respecter. À la fin du processus, nous devons montrer combien la participation que nous avons encouragée a été importante. Donc, tout cela apparaît sur notre liste de diffusion. Nous allons faire une analyse pour la présenter au GAC et ensuite nous vous présenterons une synthèse sur les activités en général, le nombre de réunions qui ont été effectuées, le nombre de régions qui ont fait des séminaires en ligne séparément et le nombre de structures. At Large, je ne veux pas corriger Alan ou je veux compléter ou embellir l'information que vous avez donnée. Combien de séances d'information ont été faites à l'échelle sous-régionale? Il y a des séances d'information et des sensibilisations externes. Nous allons faire cela pour nos rapports et nous allons nous assurer, bien sûr, du fait que le GAC aura une version préliminaire à l'avance. Alan Greenberg prend la parole. Cheryl, tu peux toujours me corriger. Cheryl reprend la parole, je le ferai toujours. Thomas Schneider prend la parole. Nous pourrions peut-être commencer, pour des questions de temps, commencer à parler du CCWG. Vous avez déjà fait votre analyse à cet égard et vous avez enfin vu quels sont les problèmes ou les questions critiques qui doivent être incluses dans la proposition. Nous vous remercions de nous avoir informés en ce sens-là sur les délibérations de la LAC. Alan Greenberg prend la parole. Merci beaucoup, Thomas. Comme je l'ai dit, nous sommes au beau milieu d'un courant de travail très grand. Les propositions changent. Les propositions pour lesquelles la période de consultation publique se termine a été mise de côté pour un moment et on s'occupe d'autres éléments. Il est difficile de travailler dans ce domaine parce que le dynamisme est grand. On a fait plusieurs types d'efforts au sein de la LAC et nous ne nous trouvons pas parmi ceux qui pensent que nous avons besoin d'une possibilité d'application légale pour tout. Les statuts sont en place depuis de nombreuses années. Le conseil d'administration aurait pu dire aux organisations de soutien qu'elles ne vont plus désigner des membres du conseil d'administration. Ils auraient pu le faire et ils ne l'ont pas fait. Il y a beaucoup de dispositions des statuts qui ne sont pas légalement applicables ou obligatoires, ainsi que les lois de la Californie, mais elles ont été appliquées. Et nous pensons que cela ne changera pas. Cependant, la plupart des gens croient que nous devons avoir l'occasion et la capacité de révoquer les membres du conseil d'administration. La question est de savoir si c'est la même entité qui les a désignés qui va le faire. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont été désignés par le comité de nomination? La menace de révocation des membres du conseil d'administration est une mesure d'incitation pour que le conseil d'administration écoute la communauté. Il se peut qu'ils ne soient pas d'accord, ils devront le justifier. Nous préférerions un modèle où nous pourrions avoir la possibilité de modifier ou de changer le conseil d'administration s'il prenait une direction qui n'est pas la bonne pour l'ensemble de la communauté. Mais nous n'avons pas besoin de la mise en application au point de vue légal de toutes les autres questions. De toute façon, nous ne sommes pas le seul groupe et tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Nous préférerions avoir un résultat final qui ne soit pas un modèle d'adhésion. Nous croyons que ce modèle avec des membres modifie la culture de l'organisation de manière significative. Et il y a un potentiel là parce que la LAC a des soucis importants. est réel. Nous n'avons pas d'entreprises pour nous soutenir. Nous sommes préoccupés pour les questions légales. Nous ne voulons pas assumer des responsabilités légales au niveau à titre individuel parce que nous travaillons sur la base du bénévolat. Alors, lorsqu'un membre nous présente des préoccupations, le modèle d'adhésion nous présente des soucis, nous voudrions travailler sur quelque chose de plus léger avec des changements minuscules pour la structure générale de l'ICANN. Les détails sont encore à l'étape de la discussion. Nous en sommes encore à l'étape de discussion des détails. Et ce qui nous inquiète, c'est que si nous avons un modèle dans lequel la LAC ne peut pas participer, le GARC puisse avoir des difficultés pour participer aussi, la CCNSO, qui est formée dans certains cas par des entités gouvernementales pour les CCTLD, ne voudront pas participer. Nous allons en être dans une situation où le seul membre formel sera la GNSO. Et alors tous ceux qui auront, tous pourraient avoir des pouvoirs, mais le seul membre formel dans la lettre et dans le règlement serait le seul membre formel. Cela porterait atteinte aux droits de tous. La LAC est peut-être plus flexible que d'autres groupes pour approuver ou pour adopter ou adapter ce qui se produit ou se présente au fur et à mesure. Mais nous voudrions éviter ce modèle. Quoique la possibilité de révoquer les membres du conseil d'administration est possible, c'est une menace qui prouve que si les membres du conseil d'administration ne respectent pas les critères de la communauté, ils peuvent être révoqués. Bon, voilà. Thomas Schneider prend la parole. Bien, je voudrais vous poser une question. Vous, est-ce que vous discutez au sein de la LAC sur ce que vous pensez par rapport au rôle que les gouvernements devraient jouer dans l'organisation à venir? Comment voyez-vous ce thème? Comment abordez-vous ce thème? Et de quoi discutez-vous au sein de la LAC? Alan Greenberg reprend. Je crois que nous n'avons pas eu de discussion formelle à cet égard, mais la position de la LAC par rapport à cette proposition, cependant, qui vient d'être soumise à la consultation publique, cela concernait le poids qui était, disons, accordé au comité consultatif et aux organisations de soutien, qui étaient différentes. Un comité consultatif, s'il veut participer, devrait pouvoir participer avec une condition ou un statut sur un pied d'égalité avec une organisation de soutien. Nous pensons que le GAC doit pouvoir participer, que la LAC doit pouvoir faire la même chose que la GNSO, la CCNSO, l'ASSO et le GAC, au cas avec les mêmes, disons, le même niveau de capacité pour participer. Thomas Schneider prend la parole. Merci beaucoup. Je pense que c'est très intéressant. Donc, je cède la parole à celui ou celle qui voudra le prendre. Maintenant, Hendrik prend la parole. Merci, Thomas. Je voulais revenir sur une phrase que vous avez prononcée. La LAC propose fondamentalement l'existence de la possibilité de révocation des membres du conseil d'administration. Mais cela ne devrait pas être un accord ayant une caractéristique d'application légale, parce que les membres du conseil d'administration doivent être révoqués à partir de principes légaux et de règles légales. De quoi parle-t-on lorsque cela ne devrait pas être applicable au point de vue légal? Alan Greenberg prend la parole. Nous estimons que cela doit être applicable au point de vue légal. On devrait pouvoir révoquer un directeur qui dit, ou un membre du conseil d'administration qui dit, non, moi je ne vais pas quitter mon poste. Cela devrait être pouvoir appliqué avec une règle ou les statuts. Le membre du comité d'administration devrait être révoqué au moyen d'une lettre qui lui serait envoyée, mais nous estimons que cela doit être exigible au point de vue légal, exigeable au point de vue légal. Mais si nous estimons qu'il s'agit d'une menace suffisante pour pouvoir agir, bon, nous pourrons le comprendre. Thomas Schneider prend la parole. Bon, je crois qu'il y a des questions concernant le plan financier, le plan stratégique, où l'on n'a pas besoin de cette caractéristique légale d'application. Est-ce que c'est correct? Alain Grimben prend la parole. Oui, bien sûr, c'est correct. Par rapport aux modifications statutaires, il faut être d'accord sur les statuts et la communauté doit pouvoir donner son avis là-dessus. Thomas Schneider cède la parole maintenant à l'Iran. L'Iran prend la parole. Merci de la précision que vous nous donnez, parce que cela nous permet d'avoir une marge de manœuvre pour avancer dans notre discussion. Lorsque vous parlez de la possibilité de révoquer le conseil d'administration, cela est inclus dans la lettre irrévocable pour la démission. Alors, il y a certains pouvoirs qui exigent une appartenance ou une adhésion et d'autres qui demandent une modification dans le dans l'approche de l'adhésion. Par exemple, nous pouvons parler, le GAC pourrait par exemple regarder les autres pouvoirs pour voir si cela demande que les deux autres derniers pouvoirs liés au budget et au plan financier puissent être ou pas exigibles. Tous ces pouvoirs pourraient être exercés s'il n'y avait qu'un membre. Alors, quel est le risque pour les différentes SO et les autres et les AC s'il n'y en a qu'une qui est membre et les autres ne sont pas des membres? C'est cet organisme pourrait-il exercer tous les pouvoirs dont il dispose en utilisant ce seul membre unique pour la mise en application de la loi et pour se présenter devant les tribunaux? Alain Greenberg prend la parole. Si nous parlons d'une SO, une organisation de soutien d'un membre, mais elle ne peut pas agir sans le soutien des autres SO et AC. Cela serait acceptable. Mais je ne sais pas si l'on peut créer une norme en interdisant à un membre ayant une capacité juridique dans la juridiction. Je ne sais pas si on pourrait l'empêcher de prendre des mesures. On peut peut-être l'éviter pour que cela ne soit pas financé par l'ICANN, mais je ne sais pas si l'on peut éviter cette situation. Quant au plan stratégique et au budget, moi je vais en parler à titre personnel parce que nous n'en avons pas débattu de façon formelle. À vrai dire, moi je m'inquiète pas du plan stratégique. Le plan dit ce que nous allons faire d'ici 5 ans et cela peut être très mauvais. Nous pouvons nous défaire du conseil d'administration et changer le plan si ça ne nous plaît pas. Quant au budget, le conseil d'administration a des responsabilités fiduciaires. Ils peuvent avoir légalement cette responsabilité, mais à vrai dire, ils n'ont pas à, disons, supporter ces résultats qu'ils ont faits. C'est le conseil d'administration qui doit s'en occuper. Alors vraiment, la question du budget ne m'intéresse pas non plus. Comme je l'ai dit, nous ne voulons pas un modèle associatif. Nous voulons un modèle où il y aura peut-être une désignation, mais pas un modèle associatif. Thomas Schneider prend la parole. J'ai une question. Il se peut qu'il faille un nombre minimum de membres pour établir une organisation, une modèle d'adhésion. Il me semble qu'on ne peut pas avoir un seul membre, mais on aurait besoin peut-être de plus de membres, de détails. L'Égypte prend la parole.
Merci. Votre présentation a été très informative et c'est utile pour nous de savoir comment d'autres SO et AC gèrent la question. Ceci dit, le GAC s'est réuni avec le SSAC avant-hier et ils ont mentionné le document SSAC 69 où ils ont inclus des critères pour la sécurité et la stabilité de l'Internet. Ils vérifient ces critères avec la proposition du CWG. La LAC fait la même chose. Alain Greenberg, si le SSAC aujourd'hui ou demain dit qu'il y a une brèche, un fossé important qui les préoccupe, eh bien, nous voudrons les entendre avant de prendre une décision parce qu'il faudra en tenir compte, ainsi que l'ICG qui doit tenir compte de ça aussi. Alors, évidemment, c'est une grande préoccupation. On va l'analyser soigneusement, on trouve que ce n'est pas la situation, mais c'est le SSAC qui doit faire sa propre tâche. Et s'ils disent qu'il y a un problème, eh bien, je veux les écouter, je veux les entendre. Thomas Schneider, d'autres questions, d'autres commentaires? L'Espagne. l'Espagne prend la parole. Je voudrais savoir si la LAC a fait une évaluation de la proposition du CCWG, du rapport du CCWG sur le mécanisme de révision indépendant. Que pensez-vous sur les garanties indépendantes qui sont incluses dans la proposition? Les dispositions d'accessibilité pour ce mécanisme et l'exigibilité des résolutions adoptées par le panel. Avez-vous tenu compte de ces trois points? Alan Greenberg, non, pas à vrai dire. On ne s'est pas concentré sur la révision indépendante. Ce que je peux dire, c'est que, et je suppose que mes collègues vont soutenir mon avis, on a des inquiétudes et la question est apparue dans la réunion avec le CCWG. Pourquoi doit-il y avoir trois membres du panel indépendant au lieu des gens que nous avons désignés au sein du conseil d'administration? Voilà notre question. Il existe des préoccupations. On a vu des décisions du conseil, du panel. Et nous, on n'est pas d'accord avec les décisions des panels. Ceci nous préoccupe. Il y a des questions ayant trait à la passation de contrat. Pas à la manière dont l'organisation progresse, mais des décisions liées à la délégation. Dans ce cas, je n'ai pas de problème s'il y a l'exigibilité. Ce qui me préoccupe sont les questions internes liées à l'ICANN, qu'un panel arbitraire puisse prendre des décisions sur la manière dont l'ICANN doit agir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être d'accord, mais ce n'est pas forcément bénéfique pour l'organisation. Je suppose que nous allons nous concentrer sur ce point pour la prochaine série. Merci. D'autres commentaires, d'autres questions à poser? C'est clair que tout cela est ouvert. Les membres d'ALAC peuvent vouloir dire quelque chose ou avoir des choses à dire. Il nous reste encore 10 minutes. L'Iran prend la parole. J'ai une autre question pour l'ALAC. Avez-vous considéré que dans certains domaines, la reconsidération, le réexamen pourrait mieux fonctionner que le rejet et alors aller dans des accords juridiques compliqués? Quelle en est la raison si l'on pose un problème et on demande le réexamen? Pourquoi faut-il croire que le conseil d'administration ne va pas tenir compte de cette demande de réexamen et va continuer à présenter des objections sans des motifs? Ma question est la suivante. Pourquoi on complique de cette manière la situation en allant à ce panel de révision, une composition difficile, une structure difficile, et la manière de décider si cela est contraignant ou pas? Pourquoi le réexamen ne fonctionne pas? Le réexamen pourrait fonctionner, mais pourquoi le conseil d'administration doit continuer à présenter des objections sur ce type de décision? La LAC à de nombreux membres. On a abordé les mécanismes de reconsidération ou de réexamen et on considère qu'il faut faire des ajustements. On peut faire des considérations sur le fond et pas sur le processus de réexamen. Il est clair que les détails sont importants, mais ces détails n'ont pas été analysés en profondeur. Mais comme avec le CWG, nous essayons d'arriver aussi léger que possible, que les procédures soient aussi légères que possible pour trouver une solution au problème. Cheryl Langdonor prend la parole encore une fois. Pour ce qui est des panels de révision indépendants et de la réconciliation ou le réexamen, parce que la conciliation, ce serait le terme correct à utiliser, il est important que quelqu'un se passe maintenant dans le cadre de la reddition de comptes pour qu'il y ait justement un cadre pour ceux qui ne peuvent pas se montrer en groupe, mais qui soient affectés, et que ces personnes aient la possibilité de se manifester. Il faudrait faire des ajustements, et dans l'intérêt public, cela doit être perçu comme quelque chose de juste. Si l'on essaie d'agir dans le meilleur intérêt d'une plus grande communauté pour qu'elle ne se voit pas confrontée au risque de dommages dans ce processus, ceci nous emmène à la Terre T1 où l'on parle de la préhistoire des réexamens pour la reddition de comptes. Alors, pour trouver une solution à ces problèmes quand on est seul. Et je sais bien qu'il y a différentes questions concernées, des questions ayant trait à une plus grande diversité géographique, à la capacité de la personne concernée à avoir une élection propre de panel, toutes des choses importantes. Mais dans ce renouvellement, réexamen et modification, il faut considérer cela pour pouvoir mieux travailler. Je crois que c'est le moment indiqué. Il faut le faire maintenant. Et ici, je vais prendre un exemple de quelque chose, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui devient problématique avec la PTI. On inclut des mécanismes dans le processus du CWG et il y a un mécanisme de réexamen, de remédiation que l'on essaie d'améliorer. En réalité, je crois que le concept de réconciliation ou de remédiation ne soit pas inclus parce que je crois qu'il est inclus. À mon époque, le 99,99% des efforts arrivera au 0,0001 d'être achevé. Alors, il faut penser à la manière dont nous créons ce soutien. Et bien des fois, on gère le risque de quelque chose de très, très peu probable. Et même si c'est quelque chose de probable, cela ne fait pas partie de l'organisation, parce que sinon, l'organisation n'existerait déjà plus. Alors, dans ce modèle multipartite basé sur le consensus, il existe toujours des possibilités que cela arrive. Je crois que le risque existe. Il faut le minimiser. Et voilà donc pourquoi nous avons ces mécanismes de réconciliation, de remédiation, etc. Je crois que ces mécanismes doivent être mis en place et aussi créer des normes pour les panels de révision indépendants. Alan Greenberg. Une des choses que nous n'avons pas mentionnées, et c'est un problème du processus actuel, c'est que dans certains cas, il n'y a pas un délai établi. Alors, peut-être qu'il y a une partie qui est affectée en permanence. Il faut faire face au problème et continuer de l'avant. Et cela doit être un des produits finaux de ce processus. Thomas Schneider, merci. Si l'on parle des cas de nouveau GTLD, comme nous l'avons entendu au préalable, ce n'est pas c'est quelque chose de probable, c'est quelque chose qui arrive en ce moment et il faut penser à l'améliorer. Alan Greenberg, j'ai essayé d'être aimable et de ne mentionner rien en particulier. Schneider, j'ai essayé de faire pareil. Olivier Crépin-Leblanc.
Olivier Crépin-Leblond prend la parole de la LAC. Je voudrais partager avec vous notre modalité d'analyse des questions qui se sont soulevées. Bien sûr, au sein de la LAC, nous soutenons un modèle multipartite équilibré. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'y a pas une partie qui puisse avoir ou prendre le pas sur une autre dans un environnement comme celui de l'ICANN. Parfois, cela se passe par suite du temps qui est consacré à certaines choses. Mais lorsque nous regardons la question de la reddition des comptes et la responsabilité de l'ICANN, on a mis vraiment l'accent sur la reddition des comptes et la responsabilité du conseil d'administration et de la personne du personnel de l'ICANN. Mais il faut voir aussi quelle est la reddition des comptes et la responsabilité des communautés de l'ICANN. Parce que si nous donnons notre soutien à une résolution ou à un projet qui ont en fait une responsabilité ou une reddition de compte déséquilibrée et que nous donnons beaucoup de facultés à une communauté de Licane, nous n'allons pas donner ce soutien à une chose qui ne serait pas équilibrée. Thomas Schneider prend la parole. Merci. Je trouve que c'est un point vraiment pertinent au sein de la communauté. Il faut aussi qu'il y ait un équilibre pour que toutes les parties prenantes soient responsables et qu'elles rendent des comptes. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? Bien, je crois que nous sommes sur le point de finir le temps qui a été attribué. Je vais aborder le dernier point, une demande du GAC pour écouter les commentaires de l'un des présidents du nouveau groupe intercommunautaire sur la gouvernance de l'Internet. C'est très bien que tu sois l'un d'eux. Nous avons une pause café courte. Tu pourrais peut-être nous dire en 2 minutes quelle est la situation du groupe et comment le GAC peut y participer. Olivier Crépin-Leblanc prend la parole. Ce n'est pas une partie de la séance de la LAC avec le GAC. C'est une séance en parallèle, une espèce d'interlude, je dirais. Je ne sais pas s'il y a un autre coprésident dans la salle parce qu'ils doivent être pris ailleurs. Nous avons établi un groupe intercommunautaire de travail sur la gouvernance de l'Internet où se trouvent la CCNSO, la LAC, la GNSO. Le SSAC a décidé de créer la charte pour ce groupe intercommunautaire, mais il n'a envoyé personne en tant que vice-président, que coprésident. Donc nous voulons demander au GAC s'il voudrait participer à ce groupe de travail intercommunautaire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui fait un suivi informel du travail de ce groupe, c'est Tracy Hackshaw. Je ne sais pas s'il faut que je dise que c'est Trinité Tobago, parce que je crois qu'il fait le suivi à titre personnel, mais ce groupe de travail intercommunautaire, pour vous donner un peu l'histoire, a créé un document il y a quelques mois. Bon, enfin, en fait, c'était l'année dernière, a créé un document pour contribuer à une aide mondiale. C'est un document rédigé par consensus, assez ouvert, qui donnait un soutien, disons, en général, au modèle multipartite, etc. C'était l'une des choses que le groupe avait fait. Maintenant, on analyse des contributions pour le SMSI plus 10 et tous les autres processus de gouvernance de l'Internet ayant lieu en dehors de l'ICAN, qui inclut le FGI, le processus de CCSTD, le processus du SMSI qui a commencé il y a quelques semaines. Je ne vais pas vous en donner la liste complète, mais je veux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent. Il y a beaucoup de fora qui sont actifs en ce moment. Et nous débattons aussi la question de savoir si nous devons être plus proactifs pour produire des documents pour nous rapprocher ou pour participer à tous ces processus externes ou présenter une plateforme seulement pour que notre communauté puisse décider et que le personnel de l'ICAN, qui est en général le personnel qui assiste à ces forums, que le personnel de l'ICAN connaisse le point de vue de la communauté sur ce qui se passe en dehors de cet environnement. Voilà, nous sommes actifs, nous participons à différents événements. Hier, nous avons eu un forum ouvert qui a eu lieu à la salle Libertador. Si personne n'y a assisté, vous pouvez voir la vidéo sur le site web du LICAN. Je crois que c'est une réunion du groupe de travail où nous allons pouvoir décider du lieu où nous allons pouvoir aller, enfin de l'orientation que nous voulons prendre et comment nous allons produire des documents pour cela, si l'on tient compte bien sûr d'un département de l'ICAN qui s'occupe de ces thèmes, et nous devons travailler en collaboration étroite avec eux pour ne pas avoir une vision qui s'oppose à cela et que finalement les gens qui ne sont pas à l'ICAN ne soient pas confus et qu'ils ne disent pas bon, la communauté c'est une chose et le personnel de l'ICAN ça n'est une autre. Nous suivons le système du groupe de travail, des groupes de travail intercommunautaires qui ont bien sûr un modèle associatif comme celui, par exemple, de fonction de transition de l'IANA et celui de la responsabilité de l'ICAN. Nous avons différents membres désignés dans certaines SO et certaines AC. Nous avons bien sûr, nous donnons la possibilité aux participants de venir et de donner leur point de vue. Thomas Schneider prend la parole. Je veux vous dire, nous avons une pause très brève. Nous devons revenir à notre réunion à 11h. Donc, 30 secondes pour les questions. L'Argentine prend la parole. L'Argentine voudrait que le GAC participe. Et bien sûr, notre pays est intéressé à participer à cela. Et nous pensons que le personnel et la communauté peuvent trouver dans ce groupe de travail un espace approprié pour s'exprimer au moyen de documents, au moyen d'une plateforme. Je voulais dire ça. Thomas Schneider cède la parole à l'Iran maintenant. L'Iran prend la parole. La question de la gouvernance de l'Internet fait l'objet du débat depuis 10 ans au sein du FGI. Est-ce que vous avez une approche plus appropriée pour aborder ce thème? Nous ne voulons plus continuer à parler sans avoir de résultats clairs, aucune approche, aucune action de suivi. Quel est votre objectif? Quelle est l'approche que vous avez choisie pour être plus efficace? Merci de votre précision. Merci de votre concision. Puis le Royaume-Uni, pour que Olivier puisse vous donner des réponses avec un petit café. Le Royaume-Uni prend la parole, c'est une initiative très importante. Il y a beaucoup de personnes qui participent à ces processus multisectoriels et multilatéraux. La question de la représentation du groupe dans ces processus, moi j'aimerais bien qu'on nous dise comment vous occupez de cette représentation. Il faut coordonner ça avec d'autres missions, il faut négocier les positions. Nous allons vous remercier de nous éclairer un tout petit peu à cet égard. Je ne veux pas que nous faisons des contributions. Nous ne pensons pas sortir pour négocier avec les missions. Ce n'est pas le mandat du groupe, évidemment. Pas du tout. Et pour répondre à l'Iran, bien, c'est un thème intéressant et je pense qu'il faudrait qu'on le soumette au débat pour que le groupe de travail en débatte. Nous regardons un tout petit peu ce qui va se passer avec l'avenir du FGI. Nous avons bien sûr des choses plus importantes qui vont se présenter sous peu, comme par exemple l'Assemblée générale des Nations unies. Et bien sûr, nous allons mettre tout ça sur notre calendrier. C'est un des bons thèmes dont il faut s'entretenir. Thomas Schneider prend la parole. Pause café à 11h de retour, aussi ponctuellement que possible.